le dernier intervenant parmi les experts. Pardon, je donne encore la parole à Anna Maria. Merci, Monsieur le Président. Comme Smita, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé, en particulier les personnes qui ont des problèmes avec ce thème. Je crois que de nombreux arguments ont été avancés, mais évidemment, il est très important que nous puissions présenter nos arguments. Cela est vital pour un débat démocratique. Je tiens à rappeler que les droits collectifs sont différents de l'exercice collectif des droits ou de l'exercice des droits en communauté. Par exemple, lorsque l'on a des titres collectifs, il peut également y avoir des intérêts collectifs et ce ne sont pas les mêmes choses. Donc, je pense à cet égard qu'il vaut la peine de reprendre l'exemple des eaux côtières qui a été mentionné par les pêcheurs, également l'exemple des savoirs traditionnels et aussi l'exemple du droit à un environnement sain. Et nous savons qu'il existe de nombreuses normes internationales qui reconnaissent tout cela. Et nous pensons qu'il est important aussi de rappeler qu'il existe des dispositions dans la constitution de différents pays. Je suis colombienne à l'origine et la constitution de la Colombie, dans son chapitre 3, comprend différents articles qui font référence aux droits collectifs, par exemple sur l'environnement. Et ce ne sont pas seulement les articles qui le reconnaissent, mais il existe également des mécanismes judiciaires qui ont été spécifiquement mis en place à cette fin, par exemple un mécanisme d'action populaire. Et il y a des modèle important pour les paysans, par exemple les réserves collectives, pour ne citer qu'un exemple. Donc il s'agit d'une pratique qui est intéressante parce que les Nations Unies sont le lieu où toutes les cultures convergent. Je me rends compte qu'il y a une certaine réticence à reconnaître les droits collectifs en prêtant. Je ne voudrais pas être trop catégorique, mais j'ai l'impression que c'est une vision occidentale libérale de la relation vis-à-vis des ressources naturelles, de la terre, de l'environnement. Et je pense que le fait de reconnaître les droits collectifs permettrait d'insuffler un caractère pluriculturel et de reconnaître que le monde va bien au-delà de cette vision individuelle. Mais bien entendu, cela ne va pas au détriment de cette vision individuelle. Je crois que l'on peut reconnaître les deux catégories de droits, les droits individuels comme les droits collectifs. J'aimerais également souligner ce qui a été dit, à savoir que les violations sont collectives. Je pourrais citer l'exemple d'une communauté qui a souffert de plusieurs violations de ses droits de l'homme en raison de la concession d'une rivière en Afrique. Eh bien, si chacun des membres de la communauté exerce ses droits à titre individuel, son droit sur la rivière n'est pas forcément protégé. C'est la raison pour laquelle ces communautés ont besoin d'exercer leurs droits collectifs sur la rivière grâce à des mécanismes qui permettront de reconnaître ce droit dans la déclaration. Et puis, au cours de conversations que j'ai eues avec des femmes, par exemple en Afrique, on m'a expliqué que la reconnaissance du droit collectif à la terre était une forme très importante leur permettant d'avoir accès à la terre et aussi d'utiliser et de gérer les ressources. J'aimerais également souligner plusieurs éléments qui sont très importants lorsqu'il s'agit de reconnaître les droits collectifs. Tout d'abord, je tiens à rappeler que tout naturellement, il s'agit d'un espace qui permet de produire ce qui est nécessaire à la vie. Ce ne sont pas seulement les paysans, mais également tous ceux qui vivent en ville qui en dépendent. Et je crois qu'il y a aussi la question sociale qui se pose. Prenons un exemple. Diego a parlé de l'accaparement des terres collectives des paysans. Les personnes sont déplacées, elles migrent vers les villes, elles n'ont pas de moyens d'existence. Cela engendre un processus de violence et finalement les jeunes sont entraînés dans la délinquance. Donc je crois qu'il est important de reconnaître les droits collectifs parce qu'il y a un lien important entre les droits collectifs et la paix. Cela est tout à fait pertinent. Et puis, de même, je pense que dans le contexte actuel, il existe une asymétrie des pouvoirs, un déséquilibre très important entre des élites privées et les paysans, en particulier les petits paysans. Les droits collectifs sont le seul moyen pour les paysans de faire face à ces injustices, qui bien souvent sont légales, parce qu'elles sont perpétrées dans le cadre de la légalité. Et finalement, ce sont des injustices qui viennent de l'inégalité matérielle. Je pense par exemple à différents processus de numérisation des réserves de l'environnement qui ont des répercussions sur les collectivités. Et je dois dire qu'en pareil cas, les communautés n'ont pas les moyens de se défendre. Le seul moyen pour le faire, ce serait de jouir de droits collectifs. Enfin, et pour parler maintenant de l'action, je pense que la proposition faite par Smita est étayée par Christophe concernant l'article 28. Il voudrait reprendre un texte semblable au premier paragraphe de l'article 26. Eh bien, je crois que ce serait un moyen de diminuer ou d'atténuer les préoccupations que ressentent certains pays vis-à-vis des droits collectifs. Et je lance donc un appel pour que nous réagissions à la nécessité de reconnaître les droits collectifs des paysans, des paysannes et des autres personnes qui travaillent dans les zones rurales, qui nous ont bien montré quelle était leur situation tout au long de ce débat. Merci.